Bon, comme vous le voyez, alors, on va parler. Il y a deux versets hein, dans la Bible qui parlent de comment nous affectons le Saint-Esprit. On sait pourquoi le Saint-Esprit est là. On a déjà vu beaucoup du travail que lui fait en nous et pour nous. Et on oublie parfois que nous avons un effet sur lui. Il y a ce premier passage où la Bible parlait d'attrister le Saint-Esprit. Et il y a l'autre passage qu'on verra, Dieu voulant plus tard, qui parle d'éteindre le Saint-Esprit. Et vous allez voir pourquoi on va dire spécifiquement que nous avons cette capacité d'attrister le Saint-Esprit par notre colère. Et moi, ça m'a toujours, même en tant qu'enfant et même encore plus tard en tant qu'adulte, ça m'a toujours interpellé que Dieu a choisi ce mot d'attrister. Parce que quand on attriste une personne qu'on aime, ça doit nous toucher aussi. C'est de toutes les personnes sur Terre, c'est ma femme. Je ne veux pas pouvoir attrister ma femme. Ça ne veut pas dire que je ne le fais jamais. Mais quand je sais qu'elle est triste, ma première réaction, qu'est-ce qui ne va pas? Et si j'apprends que la raison du pourquoi, c'est moi, oh, qu'est-ce que... Non, ça me perturbe encore plus. Si c'est quelqu'un d'autre, ben je vais perturber l'autre encore plus. Non. Mais on devrait avoir cette réaction par rapport au Saint-Esprit. Parce qu'il est Dieu. On doit aimer Dieu de toute notre force, de toute notre âme, de tout notre être. On ne doit pas avoir un amour plus grand que ce que nous avons pour Dieu. Même mon amour pour Dieu doit être plus grand que celle pour ma femme. Et quand je sais que moi, je l'attriste, la personne que je dois aimer par-dessus tout, ça doit me faire quelque chose aussi. C'est pas qu'il est attristé à cause de ce qui se passe dans le monde, à cause des autres, mais à cause de moi. Et je n'ai pas le droit de rester insensible à cela. Donc, Éphésiens chapitre 4, c'est le verset, on l'a vu et relu à plusieurs reprises hein, jusqu'à présent. Verset 26 et suivant nous disent: si vous vous mettez en colère, il dit, ça peut arriver, ne péchez point. On pourrait faire toute une série de messages là-dessus, hein, qu'on peut être en colère sans pécher, c'est pas anodin. Il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Donc il vient nous dire de quelle manière on peut donner accès au diable si on se laisse aller au lit alors que on est en colère contre quelqu'un, encore plus si c'est contre son conjoint. Encore une fois, on peut faire tout un séminaire sur le mariage là-dessus. Ne donnez pas accès au diable. Verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Dites-moi, quand est-ce qu'on est plus apte à dire des paroles mauvaises? Quand on est heureux ou quand on est en colère? On connaît la réponse. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, si vous devez absolument parler, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et tout de suite après, il y a le verset: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et tout de suite après, il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté diminuent d'entre vous. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Disparaissent du milieu de vous. Il ne dit pas toute cette colère, toute cette amertume, etc. Faites-le le moins possible. Il dit, elle doit disparaître. Elle ne doit plus exister. Ça doit être notre objectif. On comprend que ça va. Il est possible qu'on va faillir à cela. Mais quand on faillit à cela, ce n'est pas une excuse de dire, c'est trop dur, j'y arrive plus, bah, tant pis, je me lâche. Et dire, non, mon but, c'est toujours d'aller vers, il faut que ça disparaisse. Je ne peux pas être satisfait de ce que je fais mieux qu'avant, que je parle moins méchamment qu'avant, que je me mette moins en colère qu'avant. Ce n'est pas une mauvaise chose. Que je le fasse moins, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que ça disparaisse. Et là, il dit, pour nous aider à ce que ça disparaisse, vous remplacez ces choses par le verset 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Parce que quelle est la raison principale de pourquoi on ne doit pas pardonner? On nous a fait du mal, ça nous met en colère, on est fâché, etc. Et là encore, on peut faire toute une série de messages là-dessus, mais on n'a pas le temps. Mais attrister le Saint-Esprit par notre colère. Le passage qu'on vient de lire là en Éphésiens 4 nous dit clairement qu'on attriste le Saint-Esprit quand on va agir avec amertume, quand on a de l'animosité, quand on a de la colère, de la clameur, de la calomnie, de la méchanceté. Ce sont les mots qu'il utilise dans ces versets. On n'a pas besoin d'avoir toutes ces choses pour attrister le Saint-Esprit, mais si nous n'avons qu'une seule de ces choses, nous attristons le Saint-Esprit. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et nous ne verrons pas donc chaque péché énuméré que je viens de citer dans cette liste qui va attrister le Saint-Esprit. On va se concentrer sur celui qui revient le plus souvent dans la vie du croyant quotidiennement, le plus régulièrement parmi nous. L'un des péchés avec lequel tout chrétien doit lutter, ça va être celui de l'orgueil, de la fierté, de l'ego et du moi. Parce que la façon que notre orgueil va se manifester sera très, très souvent par la colère. Et comprenons bien que quand on dit que notre orgueil se manifeste par la colère, on n'est pas en train de dire qu'elle est en train de se manifester de façon évidente aux yeux des autres. Ça ne veut pas dire que la personne est en train de... Que si la personne le regarde, que c'est évident qu'il est en colère, il peut le cacher en lui-même. Mais le cœur de ce chrétien, parce qu'on lui a dit quelque chose qui lui a déplu, il y a eu des circonstances qui lui arrivent qu'il n'aime pas, et voilà que la colère commence à faire surface dans ses pensées. Personne d'autre peut les entendre encore, mais elle est déjà là. C'est déjà des pensées de colère, d'amertume, d'animosité, qui, parce qu'elles ont commencé dans son pensée, ben, sont également dans son cœur. Et la chrétien, que le chrétien veuille l'admettre ou non, est un péché universel. Et qu'est-ce que je veux dire par universel? C'est un péché qu'il n'y a pas le moindre chrétien qui ne doit pas lutter contre. Il n'y a personne qui peut dire, depuis que je suis sauvé, j'ai jamais eu le moindre problème avec la colère, quoi que ce soit. Je suis désolé, mais nous luttons tous, absolument. C'est un problème universel, il n'y a personne n'y échappe. Un pasteur y a droit. Un nouveau converti y a droit. Un chrétien de 13 ans y a droit. Un chrétien de 90 ans y a droit. On n'y échappe pas. Un pasteur qui, après avoir conseillé et suivi plusieurs centaines de personnes, a dit qu'il est arrivé à la conclusion que toute tension émotionnelle trouve son origine soit dans la colère, soit dans la peur. Et le docteur Henry Brandt, dans son ouvrage La lutte pour la paix, souligne que la colère peut amener une personne à devenir quelqu'un également rempli de peur et de crainte. Et on va voir comment les deux ne sont pas toujours nécessairement dissociés. Ce n'est pas toujours que tu es obligé, si tu es l'un, tu es obligé d'avoir l'autre, mais c'est très courant que quand tu as l'un, peu importe lequel des deux, tu auras très souvent l'autre aussi. Et un autre docteur, un chrétien, le docteur Raymond L. Kramer, a écrit dans l'un de ses ouvrages que parfois l'anxiété s'exprime au travers de la colère. Une personne anxieuse va être tendue et plus portée à devenir irritable et coléreuse. Comprenons bien que l'anxiété est une forme de peur. Et la personne qui a peur, ben, elle va être enclin justement à réagir par la colère. Une personne coléreuse, elle, de l'autre côté, peut devenir craintive. Et une personne remplie de crainte, comme on vient de lire, peut devenir coléreuse. Or, on a lu que la colère attriste le Saint-Esprit. Et la peur, on va le voir, Dieu voulant, nous dit, éteint le Saint-Esprit. Alors si on en plus on a les deux, qui est souvent le cas. On se demande pourquoi est-ce qu'on est en train de lutter autant dans notre vie chrétienne. Quand nous avons parlé des différents tempéraments au tout début, nous avons vu que ce qu'on appelle aujourd'hui les extravertis, ce que dans notre étude pour le tempérament, c'est les sanguins et les colériques. Ben, ces personnes-là sont naturellement plus enclins à la colère. Ça leur vient plus facilement. Ça ne veut pas dire que les autres ne se mettent pas en colère. C'est juste, c'est une facilité pour eux d'être en colère. Et de la même manière, les deux autres, hein, les introvertis, les mélancoliques et les flegmatiques, eux sont beaucoup plus sensibles à tomber dans la crainte et dans la peur. Et donc on a les deux sur les quatre tempéraments. Il y en a un, deux qui sont facilement liés à la colère et deux à la peur. Mais n'oubliez pas que quand on a vu les tempéraments, on a également dit que chaque individu est généralement un mélange de plusieurs tempéraments. Il y en a un qui est prédominant et généralement au moins un autre, parfois deux autres, secondaires, qui influencent mais un peu moins que les autres. Alors, si on a un sanguin qui est également un peu mélancolique, un qui est prédominant, enclin, plus facilité à la colère, mais vu qu'il est mélancolique, il est également enclin à la peur, ben on peut comprendre comment l'un va affecter l'autre. Parce qu'on est une combinaison des différents. Et personnellement, je ne serais pas surpris si j'apprenais que ces deux sentiments, hein, la colère et la peur, rendent plus de chrétiens esclaves de la loi du péché qu'aucun autre sentiment. On peut parler, comme on disait tout à l'heure, par rapport à la foi. Dit, le problème le plus grave chez les chrétiens, c'est de ne pas faire cette preuve de foi, de marcher par la foi, ou de, etc. Et je ne dis pas que ce n'est pas un problème, qu'on n'a pas tous besoin de grandir dans la foi. Mais souvent, on veut ignorer parce que c'est préférable pour nous, ça ne donne pas une bonne image de nous, de pouvoir admettre que j'ai un problème avec la colère, j'ai un problème avec la peur. Et alors, si ce n'est rien d'autre, à travers cette étude, on devrait pouvoir remercier et louer le Seigneur de ce qu'on n'a pas à combattre cela de par notre propre force, mais qui nous a donné le Saint-Esprit pour nous aider à avoir la victoire sur les péchés, et y compris sur le péché de la colère et celui de la peur. Et première chose qu'on va voir, on ne verra pas beaucoup ce soir, mais il faut comprendre qu'il y a un coût. Quand on accepte de se laisser aller à la colère, qu'on va payer un coût pour cela. Et ce n'est pas juste le fait, et je dis juste entre guillemets parce que c'est quand même le coût le plus grave, celui d'attrister le Saint-Esprit, et on verra par la suite qu'est-ce que ça veut réellement dire que d'attrister le Saint-Esprit, qu'est-ce que ça implique. Mais quand on pense au coût de la colère, on va regarder d'abord sur le plan affectif, sur le plan social, sur le plan physique et le plan spirituel, que ça nous affecte, nous, dans notre vie, et ceux à côté de nous. Le fait qu'on a choisi de se laisser aller à notre colère. Parce que, encore une fois, comme le tout début de ce passage d'Éphésiens 4, nous dit « si vous vous mettez en colère, ne péchez point ». Donc, on ne parle pas de cela, on parle de celui qui se laisse dominer par la colère. Parce que toute cette étude, c'est d'être rempli du Saint-Esprit, d'être sous le contrôle du Saint-Esprit. Et là, on choisit de se laisser contrôler par notre colère. On remplace le Saint-Esprit par le moi. On m'a fait du mal, on m'a fait du tort, je me mets en colère. Et je suis certain que si les gens, les chrétiens, avaient une réelle connaissance du prix élevé qu'ils doivent payer pour une colère ou une irritation refoulée, ils rechercheraient plus un remède qu'une excuse sur pourquoi je me suis mis en colère. Ils seraient plus aptes et plus rapides à dire « j'ai eu tort, je suis désolé, pardonne-moi » et de trouver un remède auprès du Seigneur pour ne pas recommencer. Alors, le plan affectif. Il n'est pas inhabituel d'avoir une personne refouler sa colère ou son amertume à un point tel que souvent on va utiliser le terme bah, cette personne, elle n'est plus elle-même. C'est hors caractère pour cette personne d'agir de la sorte. Et concrètement, hein, quand cette personne est dans cet état, elle va être plus enclin à prendre des décisions qui vont lui être préjudiciables. Elle va prendre des décisions qui vont lui faire du mal à lui-même, à elle-même, ou même embarrassante parfois. Pourquoi plus tard, une fois qu'il s'est calmé justement, et qu'il revient et qu'il regrette ce qu'il a fait, il doit, même s'il arrive au point de demander pardon, il est embarrassé. J'aurais jamais dû dire cela, j'aurais jamais dû faire cela, j'aurais jamais dû agir comme cela. J'ai agi sur le moment, j'ai laissé éclater ma colère en espérant qu'il arrive au point où dire pardonne-moi, j'ai eu tort. Mais pourquoi? Sur le coup, il dit, je t'ai dit des choses que, il va dire que je pensais pas. Et l'autre va dire, si tu le pensais, c'est pour ça que tu les as dites. Et alors que la personne n'aurait jamais pris ces mêmes décisions si la colère et l'amertume n'étaient pas refoulées en elle ou ne commençaient pas à dominer dans son cœur et dans ses pensées. Parce que si nous laissons la colère nous dominer, elle va automatiquement vouloir étouffer l'amour qui devrait se trouver dans notre cœur pour Dieu et pour les autres. C'est pour ça que c'est le deuxième commandement, n'est-ce pas? Premier, aimez le Seigneur, aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre être. Et le second commandement, qui est comme le premier, aimez votre prochain comme vous-même. Quand on laisse la colère dominer, ces deux choses sont mises de côté et c'est l'amour pour moi qui remporte. On m'a fait du mal, je vais rendre les choses, je vais dire ce que je pense, je vais dire les quatre vérités, je vais. Alors que quand on n'a pas cette amertume, on est plus apte à dire. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, tu sais que ça m'a blessé. Ce qu'on m'a fait, ça m'a fait mal quand même. Et il ne dit pas qu'on doit ignorer ces choses. Mais au lieu de réagir parce qu'on m'a fait du mal à moi, on peut agir en disant, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et je dois m'arrêter là alors que j'aimerais continuer, mais je ne peux pas. On s'arrêtera avec la tête enflammée. Mais